même si vous les connaissez déjà, et on va vous tenir éveillés pour que vous restiez fermement attachés à la vérité. C'est ce qu'on trouve dans la Bible. C'est tout un programme. Je voudrais lire un psaume, parce que les psaumes nous parlent de sentiments, de vie, de questions fondamentales, et c'est un psaume qui est un petit peu en relation avec l'actualité, un petit peu, même beaucoup. C'est le psaume 46. « Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent, Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde, il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu aux boucliers. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Je vous invite à prier. Seigneur, oui, nous voulons nous réjouir de ta présence au milieu de nous. C'est une promesse, c'est une réalité, parce que tu es là et tu vas nous accompagner pendant tout ce culte. Que nos oreilles, que notre cerveau puissent être attentifs à ce qui va être dit, et que nous puissions vraiment nous réjouir dans notre cœur, nous puissions faire la fête avec toi. Oui, Seigneur, que ta parole entre vraiment dans nos cœurs et puisse produire un fruit pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, place à la louange, place à la fête. Merci aux deux personnes qui sont disponibles pour la louange. Il y a une troisième personne qui est malheureusement pas bien, donc qui a pu s'absenter.
Merci. Alors, quand vous voyez qu'on n'est que deux, on a besoin de votre aide, de chanter avec nous, pour que c'est vraiment un temps de louange, parce qu'on est là pour célébrer, pour chanter Dieu. C'est un grand Dieu qu'on loue, et je vous invite à vous joindre à nous et de louer notre grand Dieu. Amen.
Quand tu passes.
bénis Dieu, ô mon âme, gloire à son saint nom. Je chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom.
Bon, je vois que vous avez déjà repris place. Alors, les enfants vont aller avec Denise dans les locaux en bas et il y aura un petit quelque chose pour vous. Vous pouvez descendre. Voilà, je vais céder la place à Mélina qui vous apportera le message ce matin.
Ok, oula. Vous m'entendez bien ? Moi, je m'entends très très bien là. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Mélina Vogt, au cas où vous ne me connaissez pas. Vous m'avez probablement déjà vue sur scène. Et bien que j'ai déjà fait deux prédications dans votre église, enfin dans mon église, parce que c'est aussi mon église, je suis toujours autant stressée. Mais voilà, comme ça vous le savez. Je vais me calmer petit à petit.
T'es à la maison.
Merci. Alors pour commencer, j'ai une première question pour vous. Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir ? Il y a plusieurs occasions qui peuvent pousser à faire réfléchir. Il peut arriver qu'on réfléchisse dans le cadre du travail. Tout le monde ne le fait pas, mais ça peut arriver. On peut réfléchir dans le cadre de la vie quotidienne. Par exemple, quel repas est-ce qu'on va manger après le culte ? Excellente question. Et je me posais la question, est-ce que vous réfléchissez toujours avant de parler ? Comme le dit ce bon vieux proverbe, tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. On m'a dit ça quand j'étais petite, je l'avais pris au sens très littéral, maintenant j'ai arrêté. Et j'ai récemment compris, en fait, que tout pouvait être un sujet de réflexion. On peut tout réfléchir dans la vie. Et moi, j'avais une tendance à particulièrement réfléchir dans ce que j'aime, donc mes études. Donc si vous ne le savez pas, je fais un master en linguistique. Et donc pour ça, j'aime réfléchir, j'aime m'asseoir devant mon ordinateur, lire des articles, prendre des petites notes. Je me sens très intelligente quand je fais ça en plus. Donc ça, j'aime bien faire. J'aime bien réfléchir pour les études. Et je me suis récemment rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles je réfléchis largement moins et où j'ai une plus grande tendance à me laisser porter avec les émotions. Hein ? Par exemple, ça va nous donner des situations du type un vendredi soir, mon mari est parti au travail, donc je suis seule à la maison, il est 22h, j'ai toujours pas mangé parce que j'ai la flemme de faire à manger et je me dis, là maintenant, j'ai envie d'un bol de céréales. Beaucoup d'étudiants vont être d'accord avec moi, c'est bon de manger des céréales, mais si on réfléchit, est-ce que c'est la meilleure chose à manger pour un repas du soir ? Pas sûr. Ça fait quand même beaucoup de sucre pour un repas du soir avant d'aller dormir. Et en fait, c'est ces petites réalisations du quotidien qui m'ont fait me poser une autre question. Est-ce que Dieu nous demande de réfléchir ? Alors pour y répondre, j'ai d'abord réalisé une petite introspection et j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, moi j'ai toujours grandi en allant à l'école du dimanche, donc chez les potes. Après je suis allée au caté, puis après je suis allée au groupe de jeunes. J'ai toujours pas quitté le groupe de jeunes d'ailleurs. Et tout simplement, je suis toujours allée à l'église. Et si bien je savais pourquoi je crois, j'ai toujours simplement cru. On m'a appris que Dieu, il a créé la terre en 7 jours. J'ai dit, ok, pas de problème. Et on m'a appris que Jésus est mort et ressuscité en 3 jours. Je suis d'accord, ça me va. J'ai aucun problème à y croire. Est-ce que j'ai eu besoin d'avoir des preuves scientifiques pour y croire ? À aucun moment. Et vous allez me dire, mais c'est très bien. T'as la foi, c'est ce qu'il faut. On n'a pas besoin de plus. C'est important de juste croire en Dieu. Et pourtant, toutes ces questions, eh ben, elles sont importantes. Et c'est des questions qui ne sont pas idiotes. Et il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas parce qu'ils n'ont pas de réponse à ces grandes questions. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme soit ressuscité ? Moi, ça m'était égal. On m'a dit qu'il est ressuscité, il est ressuscité. Pas besoin de savoir plus. Et en fait, j'ai été confrontée à ces questions particulièrement en arrivant au groupe de jeunes cet été, où les jeunes et les responsables viennent avec beaucoup de questions, beaucoup d'avis, beaucoup d'intérêts. Et moi, je me suis retrouvée face à tous ces intérêts, toutes ces questions, et je me suis dit, à un moment, il va falloir que je m'y confronte quand même, parce que moi, en tant que chrétienne qui cherche à faire la volonté de Dieu, ne devrais-je pas être capable de réfléchir à ces questions et à essayer d'aider les gens à trouver des réponses ? C'est un peu toute cette introspection, toute cette grande réflexion qui m'a retrouvée à être en prière devant Dieu et à lui demander « Seigneur, nous demandes-tu de réfléchir ou de croire simplement à ce qu'on nous dit et à ce qu'on lit dans la Bible ?» Et voici la réponse que j'ai reçue en prière. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance la piété, à la piété l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce texte est tiré de 2 Pierre 1, les versets 1 à 11. Et j'ai lu et vous avez pu lire la version de Summer 2015. Alors voici ce à quoi on va réfléchir ensemble aujourd'hui. Pourquoi réfléchir et faire des efforts? Alors, tout d'abord, comme on peut un peu trouver dans ce texte, on doit réfléchir et faire des efforts pour être capable d'aimer. Si on se penche avec attention sur les versets 5 et 8, qui sont quand même très importants, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. À l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en lisant ces versets, on se rend compte que cette liste n'est pas anodine. Il faut donc qu'on s'y penche un peu plus. Puisque ce verset 5 nous dit que nous devons faire des efforts pour grandir et acquérir ces qualités dans notre vie. Alors, de la foi, nous devons acquérir la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est une force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre la règle, la loi morale. Ça, c'est la définition du dictionnaire Le Robert, que j'ai trouvé sur Internet. Je n'ai pas vraiment ouvert le dictionnaire. Et la vertu, c'est aussi un grand sujet en philosophie. Je ne vais pas trop rentrer dedans. Mais par exemple, le philosophe Aristote, il définit la vertu comme une disposition à agir d'une façon délibérée. Donc en gros, c'est on réfléchit à un acte, et une fois qu'on se dit ok, lequel est mieux, lequel est pire, et qu'on choisit le mieux, normalement. On choisit le meilleur acte, et on le réalise, et on s'y tient jusqu'au bout. Donc la vertu, c'est une aptitude que nous devons adopter, qui doit nous pousser à vouloir le bien, et à l'appliquer concrètement dans nos vies. Le vouloir, c'est pas suffisant, il faut aussi le faire. Et ensuite, de cette première aptitude qu'est la vertu, Pierre nous dit que nous devons acquérir la connaissance. Alors, contrairement à la vertu, j'ai pas eu besoin de chercher sur Google la définition de la connaissance. Enfin, c'est quand même beaucoup plus accessible. Dans d'autres traductions de la Bible, on peut lire connaissance ou science. Et donc, dans ce texte, il s'agit de connaissances, comme on peut le comprendre, des connaissances sur le monde, sur ce qui nous entoure, mais aussi et surtout, ce sont des connaissances des choses morales et divines. Ça veut dire qu'on doit chercher à en apprendre toujours plus sur la Bible, sur Dieu, sur ce qui est bien. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est sympa. Et je me demande vraiment en pratique, est-ce que c'est possible un jour de ne plus avoir besoin d'apprendre ? J'espère que pas, j'aime bien apprendre. Et ça montre aussi que tous les efforts qu'on doit faire, ils doivent être faits au quotidien. À aucun moment on a terminé d'apprendre, il ne faut pas qu'on se repose sur nos acquis. Et ensuite, de la connaissance, Pierre nous dit qu'on doit acquérir la maîtrise de soi. Vous voyez ici sur la diapo, qui n'est pas écrit très grand, je vous prie de m'excuser, que j'ai écrit « tempérance ». Parce qu'en fait, dans cette version de la Bible de Summer 2015, bah, cette maîtrise de soi, ça fait rapidement penser au fait qu'on doit être capable d'avoir du sang-froid. Vous voyez, la maîtrise de soi, il ne faut pas se laisser aller aux grandes émotions, il ne faut pas se laisser aller à la colère. Alors que si on regarde le terme grec, ça renvoie plutôt à la tempérance. Alors à nouveau, qu'est-ce que c'est la tempérance ? Excellente question. Et la tempérance, c'est assurer la maîtrise de la volonté sur les instincts et ça maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. J'ai lu énormément de définitions sur ça sur Google. J'en ai noté une autre, mais elle est compliquée. Donc on va la sauter. Et je vais vous donner un peu mon résumé de ce que j'ai compris. Et en gros, la tempérance, ça veut dire il ne faut pas qu'on se laisse aller à l'alcool et à la nourriture. C'est très résumé. Mais c'est principalement ces deux domaines parce qu'ils comblent un besoin naturel, un besoin primaire, qui est boire et manger. Donc, il faut être capable de maîtriser ces besoins qu'on pourrait dire primaires. Donc ça, c'est un peu la tempérance. Et ensuite, de cette tempérance ou de cette maîtrise de soi, on doit chercher à s'efforcer à avoir de l'endurance dans l'épreuve, autrement dit de la patience. Et là, je vais faire appel à vos souvenirs. Je pense que vous savez tous qu'arriver à court de patience, c'est pas bon signe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, enfant, que vos parents vous disent « Si à trois, tu n'es pas là, ça va chauffer. » Honnêtement, là, on savait qu'on était arrivé au bout de la patience de nos parents. Et généralement, entre 1 et 2 et demi, on était tous là. Hein. On n'attendait pas beaucoup plus. Et ça montre à quel point eh ben, il faut qu'on travaille cette patience. Parce qu'on n'a pas envie de s'énerver avec des gens. À la limite, s'énerver avec des enfants, je pense que ça peut arriver. Mais on ne va pas s'énerver avec des étrangers. Donc, il faut qu'on travaille notre patience. Et surtout, il faut qu'on travaille notre patience pour être capable d'aimer toujours plus nos frères et sœurs, malgré les différends, malgré tout ce qui peut nous diviser au final. Et ensuite, de cette patience qu'on doit travailler, eh bien, on passe à la piété. Alors la piété, ça signifie un attachement fait de tendresse et de respect. À nouveau, hein, Google. On doit donc faire preuve d'attachement, mais envers qui ? Parce que ce mot piété ne nous dit pas grand-chose à qui on doit s'attacher. Donc je me suis tournée vers les termes grecs, et ce terme de piété, ça vient de Eusebia, vous pouvez le voir écrit. Aucune idée de si je le prononce bien. J'ai pas fait grec, mais ça signifie révérence, respect, piété envers Dieu. Ça nous dit donc que la piété, c'est s'attacher avec respect et fidélité à Dieu. Et donc une fois qu'on a cette piété et qu'on est sincèrement attaché à Dieu, eh bien ça nous permet d'expérimenter l'amour aussi qu'on peut retrouver dans l'Église, l'amour qu'on retrouve dans notre communauté entre frères et sœurs. Et c'est cette affection fraternelle. Et Pierre nous encourage à faire preuve de cet amour fraternel. Et enfin, une fois qu'on a toutes ces qualités et qu'on travaille sur nous-mêmes et qu'on sait qu'on doit les travailler, ça nous permet d'atteindre quoi, si vous vous rappelez ? L'amour. Donc toutes ces qualités qui sont à travailler, à renforcer constamment, eh bien, elles sont là pour nous aider à être capables d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Okay. Ensuite, on doit réfléchir et faire des efforts pour être plus affermi en Dieu. Donc ici, vous avez les versets 3 et 4 qui sont notés, mais dans la version Louis II cette fois-ci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc Dieu nous a donné toutes les clés pour le suivre et grandir dans notre foi. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider et nous aider à rester sur le bon chemin, et sa parole, la Bible, pour nous aider à avancer en regardant le passé aussi. Et c'est en renforçant nos connaissances morales et en les affinant et en les précisant que nous ne tomberons plus sous la tentation. Et le terme de « participant de la nature divine », je trouve ça un peu bizarre. Parce que qui sommes-nous pour faire part de cette nature divine ? C'est quand même incroyable. Donc j'ai un peu cherché à nouveau, et le terme grec vient du koinonios, donc koinonia, qui représente cette communion. Donc en fait, ce qu'on peut comprendre dans ces versets, c'est que nous pouvons faire et que nous faisons pleinement partie de cette communion entre frères et sœurs, mais aussi et surtout une communion avec Dieu. Et ça, c'est quand même magnifique. Et c'est cette communion promise, ainsi que les dons que Dieu nous a faits, qui sont pour nous une raison de faire des efforts. Et alors, on lit de bons conseils. Pour l'instant, on a lu que des choses très intéressantes dans ce passage, n'est-ce pas ? Et comme vous le savez, on n'est pas toujours très bon à recevoir des conseils, soyons sincères. Souvent, quand quelqu'un veut nous donner un conseil, on va sortir les griffes et dire « Attention, parce que tu ne sais pas ce que je vis. » Ou on peut avoir des interactions du type « Si j'étais à ta place, je ferais comme ça. » Et généralement, l'autre en face, il va dire « T'es pas à ma place. » Et on va un petit peu se rebiffer. Alors, je me suis posé la question de « Est-ce que Simon Pierre est légitime à nous donner ses conseils ?» Eh bien, la réponse est oui. Et je pense qu'il a dû faire un très long chemin pour être capable de nous écrire ces conseils qu'il nous a écrits dans cette lettre. Parce qu'on peut lire en Matthieu 14, les versets 22 à 33, une très belle histoire où Pierre et les autres disciples, ils sont dans un bateau. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il y a un fantôme qui apparaît, mais ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus. Et Pierre, il voit ça et il se dit « Hé, laisse-moi venir jusqu'à toi en marchant sur l'eau. » Jésus, il dit « Ok. » Donc Pierre, il va, il marche sur l'eau. Évidemment, Pierre commence à avoir peur et il doute et il commence à s'enfoncer. Il ne s'enfonce pas dans n'importe quoi, c'est quand même un lac, donc s'il s'enfonce trop, il est mort à un moment. Il va se noyer. Et voici la réponse que Jésus un peu lui donne. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre, il est donc très conscient de ce que ça veut dire de douter et de tomber, parce qu'il n'était pas loin. Et il y en a beaucoup d'autres des histoires de Pierre qui nous montrent à quel point il a dû faire des efforts. Je ne vais pas toutes vous les citer, je vous invite à lire la Bible pour ça. Et c'est pourquoi ces conseils ne sont pas à entendre comme des critiques, mais vraiment comme des encouragements à en entendre, à en apprendre toujours plus pour ne plus ni douter ni tomber. Donc c'est donc à nous de réfléchir, à emmagasiner des connaissances et à se créer des fondations bien solides dans notre foi pour ainsi ne pas tomber et être plus affermis en Dieu. Et c'est une chose importante pour nous que d'être affermis. Et Simon-Pierre, ce n'est pas le seul à nous y encourager. On peut lire par exemple au verset de Jacques 5, verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc avoir des connaissances, faire des efforts, réfléchir, eh bien ça nous aide à être plus ferme dans ce en quoi on croit, donc être plus ferme en Dieu. Et enfin, pourquoi faire des efforts et réfléchir? Pour être plus près de Dieu. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui veut être près de nous. Et c'est pourquoi on peut avoir une relation directe avec lui, au travers de la prière, de la lecture de la Bible, de la communion qu'on peut avoir ici à l'Église, du Saint-Esprit dont Dieu nous a fait don. Tout ça, ça nous permet d'être toujours plus près de Dieu. Et on entend souvent cette image dans le monde chrétien, je ne sais pas si vous l'avez entendu, où qui dit « Dieu nous tend la main, on a juste à la prendre ». Et c'est vrai dans un certain sens, Dieu il a fait clairement tout le travail. Et à nous, il ne nous reste qu'à le suivre et à faire sa volonté. Alors dit comme ça a l'air extrêmement simple, n'est-ce pas? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que en vrai, c'est galère, c'est pas facile tous les jours, hein, on va être sincères. Et souvent, on a un peu l'impression de naviguer à vue, c'est pas trop. On se dit peut-être à un moment, on aura une parole de Dieu, un truc qui va nous valider ce qu'on est en train de faire. Et c'est pourquoi avoir des connaissances et faire des efforts pour toujours connaître Dieu, c'est tellement important. On peut lire au verset 8 et 9, « Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » La liste de qualités qu'on a vues, elle est donc là pour nous servir de boussole un peu, lorsqu'on navigue à vue. Si on a des connaissances et qu'on connaît Dieu, et que nos cœurs sont près de lui, alors dans les moments plus difficiles, on pourra se reposer sur notre foi solidifiée par les qualités que sont la patience, la tempérance, la connaissance, l'amour fraternel, la piété, la vertu et l'amour. Dieu nous a fait don de son amour, et nous avons la chance d'être sauvés gratuitement, sans rien avoir à donner en retour. Et c'est un fait que nous devons précieusement gardé en mémoire. Surtout après qu'une certaine personne vous fasse une prédication en vous encourageant à changer, à faire des efforts pour acquérir des connaissances comme de la piété, de la vertu et tout ce qui va avec. Parce que toute cette liste que j'ai détaillée, elle n'est pas là pour nous faire culpabiliser. Il ne faut pas qu'on se dise « Oula, moi la patience, ce n'est pas mon point fort ». Je vais probablement finir en enfer, donc. Ce n'est pas le message. Je tiens à le préciser. Au contraire, c'est plutôt un encouragement à continuer à travailler tout ça. Mais on peut encore plus penser ça, et cette pensée culpabilisante, si on lit les versets 10 à 11. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si on le lit mal, ce verset, on peut très vite penser, Mais est-ce qu'on est sauvé par les actes? Parce qu'apparemment, c'est si on fait des efforts et si on suit cette liste de qualités que les portes du Seigneur vont être ouvertes. Alors, sommes-nous sauvés par les actes? Merci. Non, nous ne sommes pas sauvés par les actes. Très bien. On n'est pas sauvés par les actes, mais bien par la grâce de Dieu. Comme il est dit au début du passage d'ailleurs, nous avons la foi et Dieu nous a donné par amour son Fils pour nous sauver de nos péchés et pour nous donner un exemple à suivre. Donc dans ces versets, Pierre, il n'essaye pas de nous faire culpabiliser ou de nous faire passer un message de type « va falloir vous remettre sur le droit chemin ». Au contraire, il nous rappelle simplement voilà, qu'il faut qu'on fasse des efforts constants. Des efforts constants pour Dieu, avec un cœur volontaire, rempli d'amour. Parce que ces efforts qu'on fait, ils sont avant tout pour Dieu, pour faire venir son règne aussi, pour annoncer son règne. Et c'est pour lui plaire et pour être toujours plus près de Dieu. Alors en préparant cette prédication, je crois que le Seigneur m'a donné une réponse à ma question initiale, qui était « Seigneur, nous demandes-tu de réfléchir ou de croire simplement à ce qu'on nous dit et à ce qu'on lit dans la Bible ?» Et moi, j'ai compris que le Seigneur nous demande de croire. Il nous demande d'avoir simplement la foi. Mais c'est aussi en partant de cette foi, qui est tellement extraordinaire et merveilleuse et inexplicable, qu'on est invité à grandir. Le Seigneur nous aime sans condition aucune, mais nous sommes tout de même invités à travailler des qualités qui sont, si on se rappelle bien, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour. J'ai réussi à les citer parce qu'ils sont écrits sur mon papier. Et toutes ces qualités, eh ben, elles sont là pour nous aider à être capables d'aimer les autres. Elles sont là pour nous aider à être toujours plus affermis en Dieu et à toujours être plus près de Dieu. Et ces qualités, c'est des défis qui sont à relever au quotidien. Et c'est pour nous un moyen de toujours plus se raccrocher à Dieu. Alors avec cette prédication, j'ai compris que la réponse à ma question, ce n'est pas simplement un oui ou un non, mais c'est plutôt que Dieu m'aime pour ce que je suis, et c'est ses efforts et ses réflexions, eh bien, elles sont là pour m'aider à solidifier ma foi. Ces efforts et cette réflexion que je fais, eh bien, c'est là pour continuer à me faire avancer, à me faire progresser, et aussi à faire progresser le règne de Dieu en partageant son amour, en étant capable de répondre aux questions et en étant un témoignage vivant de son amour, en étant patiente, tempérée, pieuse, vertueuse, en vivant l'amour fraternel dans mon église, dans mon groupe de jeunes et en vivant l'amour de Dieu. Alors, ce dimanche, je vous invite à faire des efforts parce que Dieu nous aime.
Tout un programme. C'est rassurant, c'est qu'on est un cerveau, en fait. Donc, on est tous appelés à réfléchir. Vous savez que, je ne suis pas médecin, mais le cerveau consomme 40% des ressources qu'on mange. Bon, c'est surtout le sucre. Donc, le sucre est utile, peut-être pas à certaines heures. Mais si le cerveau consomme, c'est qu'il travaille et qu'il réfléchit. Donc on est vraiment encouragé à réfléchir. Et dans quel but? Mélina nous l'a expliqué. Ça tourne autour de l'amour, ça tourne autour de connaître Jésus-Christ, vouloir le bien. C'est toutes des choses qui nous sont encouragées par le texte de Pierre. Maîtriser ses choix fondamentaux, ses besoins fondamentaux, c'est aussi tout un programme. Avoir de la patience, Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est important. Et tout ça pour avoir un respect, un attachement à Dieu. Et le tout, c'est finalement de retourner à l'amour, de pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur et de s'aimer les uns et les autres. Alors je vais vous inviter à prier, par des prières courtes, mais vraiment en utilisant notre cerveau et aussi à l'écoute de l'esprit, donc les deux vont ensemble, que Dieu puisse nous parler au travers des uns et des autres. Je vais aller chercher le micro et puis je passerai vers les uns et les autres. Alors je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la vie, tu nous as donné les moyens aussi de te connaître, tu nous permets de réfléchir, tu nous permets de grandir avec toi et nous ne sommes pas au chômage. Notre vie chrétienne a commencé par une conversion, mais elle ne s'arrête pas là, elle continue, nous devons progresser. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Amen. Faites-moi un petit signe si vous voulez vous exprimer.
Oui Seigneur, merci parce que c'est vrai que le salut est gratuit, mais ça coûte de le mettre en pratique. Seigneur, merci de nous rappeler que tu nous aimes tels que nous sommes, mais tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Alors Seigneur, merci de nous aider à développer ces qualités, je le dis pour moi en tout cas. Tout ça Seigneur pour que je te connaisse toujours mieux, mais aussi pour je me rends compte que plus j'arrive à t'obéir, plus je suis libre. Alors Seigneur, merci pour ta patience envers moi, envers nous. Merci pour ta grâce et ton pardon. Merci pour qui tu es. Loué sois-tu au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci Père pour cette relation que tu as voulu avec nous. Merci aussi parce que tu as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous aide dans cette relation. Et c'est vrai que Seigneur, combien de fois le doute s'en mêle? Combien de fois les questions s'en mêlent? Mais Seigneur, toi, tu es là, présent, par la foi, par cet amour que tu as pour nous. Alors c'est vrai, Seigneur Jésus, que de rester près de toi, Seigneur, mais ton Esprit Saint nous encourage à toutes ces qualités qu'on a parlé ce matin. Et merci parce qu'elles nous aident et nous pouvons nous reposer dans ton esprit, dans ton amour. Et Seigneur, pouvoir le partager, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et tu nous encourages aussi à reconnaître cet amour qu'on a en chacun de nous, et Seigneur, pour pouvoir le distribuer. Alors Seigneur Jésus, merci pour l'Esprit Saint que tu as envoyé et qui est dans nos cœurs. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour la foi que tu nous donnes et merci parce que tu as créé l'intelligence, tout type d'intelligence et tu as créé l'être humain aussi avec une raison et une façon de fonctionner et merci parce que l'ouverture à l'autre aussi nous fait grandir dans la foi et je te prie pour que on puisse être aussi des chrétiens qui réfléchissons avec la raison et la foi, en ce sens que les deux peuvent être corrélés, associés ensemble. Et apprends-nous, Seigneur, à savoir réellement méditer sur ta parole, tout en nous enrichissant aussi d'autres lectures qui peuvent ouvrir et grandir notre regard comme un appareil photo avec un grand angle, tout en étant animé par les valeurs que tu nous donnes à travers Jésus. Parce que, Seigneur, c'est tellement important dans cette société et je le ressens profondément. Et merci, Seigneur, pour cette église qui est très variée et qui vit dans une richesse à travers les différences. Et ça, c'est précieux, Seigneur, et préserve-nous aussi des jugements ou d'une pensée, oui, peut-être parfois réduite. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Ça me fait penser à quelque chose. C'est que moi, j'ai aussi été étudiant. Et puis, on se dit que quand on a fini ses études, quand on obtient un diplôme, ben c'est peut-être fini. Eh bien, non, ce n'est pas fini. On est en formation continue avec le Seigneur, que ce soit du premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge. On est tout le temps à son école. Et comme bouquins qui nous sont proposés, ben, il y a la Bible. Effectivement, dans la Bible, on trouve un tas de conseils, un tas d'idées pour nous former, pour progresser et pour avancer dans nos connaissances. Alors, merci pour cette prédication et que ça nous fasse réfléchir pendant la semaine qui vient. On va passer un temps d'annonce. Je vais passer la parole à Roger et puis après à Joanne.
Bonjour. Tout à l'heure, il y a une équipe qui va être accueillie dans ces locaux. Au nom de l'équipe de Kids Game, j'aimerais déjà vous remercier pour les locaux qui sont gracieusement mis à disposition ainsi que la chapelle. C'est les vacances la semaine prochaine. L'église ne sera pas vide, ces bâtiments sont remplis en 30 et 35 enfants, plus une dizaine d'accompagnants. C'est pour la grande semaine. Donc merci pour votre accueil. Vous êtes aussi cordialement invités à venir au vernissage qui aura lieu vendredi à partir de 5 heures, entre 5 et 7 heures. Vous êtes les bienvenus pour voir un petit peu ce qu'on aura vécu avec les enfants. Il y aura beaucoup d'improvisation, de créativité, c'est un petit peu le thème. On nous a posé cette question avec un verset. « Je suis dans la joie quand je monte à la maison de l'Éternel. » Qu'est-ce qui procure cette joie quand vous venez dans la maison de l'Éternel? nous aider à réfléchir à ça, et puis que dans les ateliers que nous allons animer, avoir cette pensée, qu'est-ce qui nous donne de la joie de rentrer dans la maison de l'Éternel. Voilà un petit peu le défi. On va parler de la brebis perdue, on va parler du nom, le berger qui ne connaît pas notre nom, voilà pour les enfants. Mais on va le faire dans un langage totalement innovant. On va sortir du langage patois, hein, que nous savons, que nous connaissons, pour parler à ces enfants, et ça bouscule pas mal de choses. Alors voilà, donc ces enfants viennent un petit peu de partout. On a distribué des flyers dans le quartier, dans toute cette région ici de Mérin. Si je ne me trompe pas, on a entre 5 et 6 enfants qui vont venir grâce à ces flyers. Voilà. J'ai besoin un petit peu de votre aide tout à l'heure, dès qu'on sort du culte. Là, si on peut rassembler les chaises, mettez-les sur le côté, parce qu'on va remplir cet espace pendant la semaine. Si vous venez pendant la semaine, prenez pas peur, parce qu'il y aura beaucoup de chambardements. Mais on retrouvera nos locaux samedi, tels qu'ils sont aujourd'hui. Et si je peux avoir 6 personnes pour m'aider, il y a une tente ici qui est en train de se déplier. Il y aura un atelier à l'extérieur. Et si je peux avoir 6 personnes pour m'aider, ça prend 30 secondes. Merci.
Bonjour. Alors, j'invite Claude. Et puis, juste pour cette semaine, est-ce qu'il y a cet été avec les vacances et puis grande semaine?
Oui, mais il n'y aura pas de message.
OK, il y a quelque chose. Donc, le mercredi à 19h, 20h, comme d'habitude, groupe de jeunes de 15-25 ans. Je laisse ça.
Merci. Donc le week-end 4 et 5 novembre, donc il y a la kermesse œcuménique. Notre église donc est engagée avec des maquillages, avec un stand de librairie, avec deux ou trois choses aussi. Et j'ai encore besoin de quelques personnes pour le dimanche pour tenir la librairie. Donc venez vers moi. C'est des moments très conviviaux. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de partager, de rencontrer. Et je crois que notre présence, elle est aussi appréciée au niveau de la kermesse. Il y a aussi de la place pour les solides gaillards pour pouvoir faire le montage et le démontage. Donc venez vers moi, j'ai quelques infos. Et je vous rappelle encore que les billets sont disponibles pour Gladys Award des Fabricants de Joie. Donc ça sera le samedi 11 novembre. Et il y a une séance à 15h et une autre à 19h30. Donc vous pouvez obtenir les billets par internet sur leur site, ou bien si vous n'avez pas internet ou que c'est compliqué, vous pouvez venir vers moi, je prendrai les billets pour vous. Merci.
Alors dimanche prochain, c'est la série de cultes motivés par l'essentiel qui reprend Façonné pour le plaisir de Dieu avec Philippe. Et puis comme vous l'avez entendu, comme il y a la kermesse œcuménique le 4 et 5 novembre, il n'y aura pas de repas communautaire le 5 novembre. Par contre, il sera le 12 novembre avec un culte mission où nous recevrons Roger et Dominique Sewell. Et puis aussi peut-être rappeler que le premier dimanche de chaque mois, il y a le caté du dimanche où il y a un accueil dès 9h30 pour les enfants du caté. Et c'est tout.
Alors, je suis de retour pour faire la bénédiction. Alors, je crois que vous pouvez vous lever, ouais. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que ce verset tiré de 2 Thessaloniciens 3, verset 5, vous accompagne dans la semaine qui vient. Que Dieu vous bénisse.